Chapitre 2. Lorsque nos aïeux voulaient se rendre compte de ce qui pousse l'homme à agir d'une façon ou d'une autre, ils y arrivaient d'une façon bien simple. On peut voir jusqu'à présent des images catholiques qui représentent leur explication. Un homme marche à travers champs et, sans s'en douter le moins du monde, il porte un ange sur son épaule gauche et un ange sur son épaule droite. Le diable le pousse à faire le mal, l'ange cherche à l'en retenir. Et si l'ange a eu le dessus, et l'homme est resté vertueux, trois autres anges s'emparent de lui et l'emportent vers les cieux. Tout s'explique ainsi à merveille. Nos vieilles bonnes d'enfants, bien renseignées sur ce chapitre, vous diront qu'il ne faut jamais mettre un enfant au lit sans déboutonner le col de sa chemise. Il faut laisser ouverte, à la base du cou, une place bien chaude où l'ange gardien puisse se capitonner. Sans cela, le diable tourmenterait l'enfant jusque dans son sommeil. Ces conceptions naïves s'en vont. Mais si les vieux mots disparaissent, l'essence reste toujours la même. La gente éduquée ne croit plus au diable. Mais, comme ses idées ne sont pas plus rationnelles que celles de nos bonnes d'enfants, elle déguise le diable et l'ange sous un verbiage scolastique, honoré du nom de philosophie. Au lieu de diable, on dira aujourd'hui la chair, les passions. L'ange sera remplacé par les mots conscience ou âme, reflet de la pensée d'un dieu créateur ou du grand architecte, comme disent les francs-maçons. Mais les actes de l'homme sont toujours représentés comme le résultat d'une lutte entre deux éléments hostiles. Et toujours, l'homme est considéré d'autant plus vertueux que l'un de ces deux éléments, l'âme ou la conscience, aura remporté plus de victoires sur l'autre élément, la chair ou les passions. On comprend facilement l'étonnement de nos grands-pères lorsque les philosophes anglais et plus tard les encyclopédistes vinrent affirmer, contrairement à ces conceptions primitives, que le diable et l'ange n'ont rien à voir dans les actions humaines. Mais que toutes les actions de l'homme, bonnes ou mauvaises, utiles ou nuisibles, dérivent d'un seul motif, la recherche du plaisir. Toute la confrérie religieuse, et surtout la tribu nombreuse des pharisiens, crièrent à l'immortalité. On couvrit les penseurs d'invectives, on les excommunia. Et lorsque plus tard, dans le courant de notre siècle, les mêmes idées furent reprises par Bentham, John Stuart Mill, Tchernychevski et tant d'autres, et que ces penseurs vinrent affirmer et prouver que l'égoïsme ou la recherche du plaisir est le vrai motif de toutes nos actions, les malédictions redoublèrent. On fit contre leurs livres la conspiration du silence. On en traita les auteurs d'ignares. Et cependant, que peut-il y avoir de plus vrai que cette affirmation ? Voilà un homme qui enlève le dernier morceau de pain à l'enfant. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est un affreux égoïste, qu'il est guidé exclusivement par l'amour de soi-même. Mais voici un autre homme, que l'on s'accorde à reconnaître vertueux. Il partage son dernier morceau de pain avec celui qui a faim, il ôte son vêtement pour le donner à celui qui a froid. Et les moralistes, parlant toujours le jargon religieux, s'empresse de dire que cet homme pousse l'amour du prochain jusqu'à l'abnégation de soi-même, qu'il obéit à une passion tout autre que celle de l'égoïste. Et cependant, en y réfléchissant un peu, on découvre bien vite que, si différentes que soient les deux actions comme résultat pour l'humanité, le mobile a toujours été le même, c'est la recherche du plaisir. Si l'homme qui donne sa dernière chemise n'y trouvait pas de plaisir, il ne le ferait pas. S'il trouvait plaisir à enlever le pain à l'enfant, il le ferait, mais cela lui répugne. Il trouve plaisir à donner son pain, et il le donne. S'il n'y avait pas inconvénient à créer de la confusion, en employant des mots qui ont une signification établie pour leur donner un sens nouveau, on dirait que l'un et l'autre agissent sous l'impulsion de leur égoïsme. D'aucuns l'ont dit réellement, afin de mieux faire ressortir la pensée, de préciser l'idée en la présentant sous une forme qui frappe l'imagination, et de détruire en même temps la légende qui consiste à dire que ces deux actes ont deux motifs différents. Ils ont le même motif de rechercher le plaisir ou bien d'éviter une peine, ce qui revient au même. Prenez le dernier des coquins, un tiers qui massacre 35 000 Parisiens. Prenez l'assassin qui égorge toute une famille pour se vaudrer dans la débauche. Ils le font parce que, en ce moment, le désir de gloire, ou bien celui de l'argent, prime chez eux tous les autres désirs. La pitié, la compassion même sont éteintes en ce moment par cet autre désir, cette autre soif. Ils agissent presque en automate pour satisfaire un besoin de leur nature. Ou bien, laissant de côté les fortes passions, prenez l'homme petit qui trompe ses amis, qui ment à chaque pas, soit pour soutirer à quelqu'un la valeur d'une chope, soit par vantardise, soit par ruse. Prenez le bourgeois qui vole sou à sou ses ouvriers pour acheter une parure à sa femme ou à sa maîtresse. Prenez n'importe quel petit coquin. Celui-là encore ne fait qu'obéir à un penchant. Il cherche la satisfaction d'un besoin. Il cherche à éviter ce qui, pour lui, serait une peine. On a presque honte de comparer ce petit coquin à quelqu'un qui sacrifie toute son existence pour la libération des opprimés et monte à l'échafaud comme une nihiliste russe, tant les résultats de ces deux existences sont différents pour l'humanité, tant nous nous sentons attirés vers l'une et repoussés par l'autre. Et cependant, si vous parliez à ce martyr, à la femme que l'on va pendre, lors même qu'elle va monter à l'échafaud, elle vous dirait qu'elle ne donnerait ni sa vie de bête traquée par les chiens du tsar, ni sa mort, en échange de la vie du petit coquin qui vit de sous volés aux travailleurs. Dans son existence, dans la lutte contre les monstres puissants, elle trouve ses plus hautes jouissances. Tout le reste, en dehors de cette lutte, toutes les petites joies du bourgeois et ses petites misères, lui semblent si mesquines, si ennuyeuses, si tristes. « Vous ne vivez pas, vous végétez, répondrait-elle, moi j'ai vécu. » Nous parlons évidemment des actes réfléchis, conscients de l'homme, en nous réservant de parler plus tard de cette immense série d'actes inconscients, presque machinaux, qui remplissent une part si immense de notre vie. Eh bien, dans ces actes conscients ou réfléchis, l'homme recherche toujours ce qui lui fait plaisir. Un tel se saoule et se réduit chaque jour à l'état de brute, parce qu'il cherche dans le vin l'excitation nerveuse qu'il ne trouve pas dans son système nerveux. Tel autre ne se saoule pas, il renonce au vin, lors même qu'il y trouve plaisir, pour conserver la fraîcheur de la pensée et la plénitude de ses forces, afin de pouvoir goûter d'autres plaisirs qu'il préfère à ceux du vin. Mais que fait-il sinon agir comme le gourmet qui, après avoir parcouru le menu d'un grand dîner, renonce à un plat qu'il aime cependant pour se gorger d'un autre plat qu'il lui préfère? Quoi qu'il fasse, l'homme recherche toujours un plaisir ou bien il évite une peine. Lorsqu'une femme se prive du dernier morceau de pain pour le donner au premier venu, lorsqu'elle ôte sa dernière loque pour en couvrir une autre femme qui a froid et grelotte elle-même sur le pont du navire, elle le fait parce qu'elle souffrirait infiniment plus de voir un homme qui a faim ou une femme qui a froid que de grelotter elle-même ou de souffrir elle-même la faim. Elle évite une peine dont ceux seuls qui l'ont sentie eux-mêmes peuvent apprécier l'intensité. Quand cet Australien, cité par Guyot, dépérit à l'idée qu'il n'a pas encore vengé la mort de son parent, quand il s'étiole, rongé par la conscience de sa lâcheté, et ne revient à la vie qu'après avoir accompli l'acte de vengeance, il fait un acte parfois héroïque pour se débarrasser d'un sentiment qui l'obsède, pour reconquérir la paix intérieure qui est le suprême plaisir. Quand une troupe de singes a vu l'un des siens tomber sous la balle du chasseur et vient assiéger sa tente pour lui réclamer le cadavre, malgré les menaces du fusil, lorsqu'enfin le vieux de la bande entre carrément, menace d'abord le chasseur, le supplie ensuite et le force enfin par ses gémissements dans la forêt, les singes obéissent à un sentiment de condoléance plus fort que toutes les considérations de sécurité personnelle. Ce sentiment prime en eux tous les autres. La vie même perd pour eux ses attraits, tant qu'ils ne se sont pas assurés qu'ils ne peuvent plus ramener leurs camarades à la vie. Ce sentiment devient si oppressif que les pauvres bêtes risquent tout pour s'en débarrasser. Lorsque les fourmis se jettent par milliers dans les flammes d'une fourmilière que cette bête méchante, l'homme, a allumée, et périssent par centaines pour sauver leurs larves, elles obéissent encore à un besoin, celui de sauver leur progéniture. Elles risquent tout pour avoir le plaisir d'emporter ces larves qu'elles ont élevées avec plus de soin que mainte bourgeoise n'a élevé ses enfants. Enfin, lorsqu'un infusoire évite un rayon trop fort de chaleur et va rechercher un rayon tiède, ou lorsqu'une plante tourne ses fleurs vers le soleil, ou referme ses feuilles à l'approche de la nuit, ces êtres obéissent encore au besoin d'éviter la peine et de rechercher le plaisir, tout comme la fourmi, le singe, l'australien, le martyr chrétien ou le martyr anarchiste. Rechercher le plaisir, éviter la peine, c'est le fait général. D'autres diraient la loi du monde organique. C'est l'essence même de la vie. Sans cette recherche de l'agréable, la vie même serait impossible. L'organisme se désagrégerait, la vie cesserait. Ainsi, quelle que soit l'action de l'homme, quelle que soit sa ligne de conduite, il le fait toujours pour obéir à un besoin de sa nature. L'acte le plus répugnant, comme l'acte indifférent ou le plus attrayant, sont tous également dictés par un besoin de l'individu. En agissant d'une manière ou d'une autre, l'individu agit ainsi parce qu'il y trouve un plaisir, parce qu'il évite de cette manière ou croit éviter une peine. Voilà un fait parfaitement établi. Voilà l'essence de ce que l'on a appelé la théorie de l'égoïsme. Eh bien, sommes-nous plus avancés après être arrivés à cette conclusion générale? Oui, certes, nous le sommes. Nous avons conquis une vérité et détruit un préjugé qui est à la racine de tous les préjugés. Toute la philosophie matérialiste, dans ses rapports avec l'homme, est dans cette conclusion. Mais s'ensuit-il que tous les actes de l'individu soient indifférents, ainsi qu'on s'est empressé d'en conclure? C'est ce que nous allons voir.